Céline Landreau et Vincent Parisot.
Bonjour à toutes et à tous, oui, bienvenue. Et comme le disait Julien à l'instant, c'est parti, 2h30 d'infos, de reportages, d'invités, d'opinions, les vôtres notamment, puisque à partir de 13h, vous pourrez prendre la parole, vous aurez la parole au 3210 ou sur l'appli RTL. On est ensemble jusqu'à 14h30. Mais tout de suite, c'est l'info, il est midi 1 et c'est avec vous Céline Landreau.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et à la une, le climat. Alors que mars 2024 a été le mois le plus chaud jamais enregistré, que les océans atteignent des températures jamais mesurées, la Cour européenne des droits de l'homme condamne pour la première fois un État, la Suisse, pour inaction climatique. Une victoire pour les associations, on y reviendra dans ce journal. À suivre aussi, beaucoup de questions après l'incendie de dimanche, rue de Charonne, à Paris, bilan 3 morts et la piste criminelle désormais privilégiée. Les taux des prêts immobiliers hors assurance qui repartent à la baisse. Est-ce enfin le début d'une sortie de crise pour le secteur? On vous explique tout dans 10 minutes. Et puis dans 20 minutes, RTL Midi, votre vie et une petite dose de caféine aujourd'hui. Filtre, capsule, Robusta ou Arabica, le café dans tous ses états. On sera avec un torréfacteur qui nous donnera tous ses secrets. Et puis, vous l'avez dit Vincent, à partir de 13h, un seul numéro, le 3210 pour discuter avec vous.
Voilà, et réagir à l'actualité. Alors l'actualité, c'est aussi l'emploi des seniors. Vous savez que les négociations se poursuivent. On est dans vraiment l'ultime ligne droite. Mais on peut déjà en parler de votre situation de senior notamment, ou de patron. Vous cherchez un emploi, vous recrutez des seniors ou au contraire, vous les éviter. N'hésitez pas, 3210. On va parler du droit de grève qui est en question au Sénat, notamment sur les périodes dites sensibles, les départs en vacances ou encore les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut envisager des grèves pour les Jeux Olympiques? Est-ce que vous trouvez ça normal? 3210. Et puis on va parler aussi de la lecture, du temps de lecture qui s'effondre à l'évidence chez les jeunes au profit des écrans, évidemment.
Avance à la météo avec vous aujourd'hui, Caroline Chimo. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Et bien, toujours plusieurs départements de la façade ouest en alerte orange, vague submersion. On surveille aussi les crues dans l'Eure et en Seine-Maritime. On y reviendra à la fin du journal.
Effectivement, merci Caroline.
RTL Midi.
Un incendie, 3 morts et beaucoup de questions. Que s'est-il passé dimanche dans cet appartement du 11e arrondissement de Paris? Bonjour Sophie Neumeyer.
Bonjour.
La piste accidentelle semble définitivement écartée après la découverte de plaies par balles sur les corps retrouvés carbonisés dans l'appartement.
Oui, effectivement, c'est ce qu'affirme le Parisien qui évoque maintenant la piste criminelle, le double homicide. Alors, trop tôt pour le moment pour être formel, mais en effet, les autopsies pratiquées sur les victimes ont conduit le parquet de Paris à modifier le cadre de l'enquête. La brigade criminelle est maintenant saisie d'une enquête pour homicide volontaire, pour meurtre donc, alors que jusqu'à présent, elle enquêtait pour des homicides involontaires. D'ailleurs, les témoins sur place évoquent plusieurs détonations dans la journée de dimanche. Je vous propose d'écouter Jocelyne. Elle habite ce quartier de la rue de Charonne, elle s'est confiée à Célestin Bougère. Écoutez.
Donc à 16h30, je sors mon chien comme d'habitude, dans le petit passage qui se trouve devant l'immeuble. J'ai entendu un coup de feu. Et 3-4 minutes après, 5 au maximum, un deuxième. Et comme je me suis pas sentie tranquille, j'ai pensé que c'était... Alors, j'ai pas du tout pensé à un crime, rien du tout. J'ai pensé que c'était des mômes qui jouaient à tirer sur les pigeons. Et je suis partie du passage.
Alors Sophie, là, on parle des deux victimes retrouvées dans l'appartement. Mais il y a une troisième victime, celle qui a succombé à une chute.
Oui, effectivement. Alors, on ne connaît pas encore le rôle de cette troisième personne qui aurait tenté, selon les témoins, de se glisser jusqu'à l'appartement du dessous pour échapper aux flammes. Et en se suspendant, elle serait ensuite tombée. Et pour l'heure, aucune des trois victimes n'est identifiée. L'enquête se poursuit.
Sophie Neumeyer, service police-justice d'RTL. Merci Sophie. Les obsèques de Shemseddine auront lieu en début d'après-midi à Savigny-sur-Orge. Avant son inhumation dans une commune voisine. Et vendredi, c'est dans son quartier de Viry-Châtillon qu'une marche blanche devrait être organisée près du collège donc de l'adolescent lynché jeudi dernier à la sortie de son établissement scolaire. 4 jeunes, on vous le rappelle, sont mis en examen pour assassinat dans cette affaire, dont 2 frères qui n'appréciaient pas que Shemseddine flirte avec leur sœur. Et puis un homme en garde à vue après l'agression d'un brancardier samedi à l'hôpital de Chaland en Vendée. Interpellé hier, il accompagnait samedi son père et son cousin à l'hôpital. Roué de coups, le brancardier avait dû être hospitalisé en soins intensifs.
Il est midi 5. Alors ça, c'est une grande première, on peut le dire. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Suisse pour inaction face au changement climatique.
Oui, elle avait été saisie par une association de femmes âgées qui a donc obtenu gain de cause, Yannick Collant.
Et oui, la Suisse condamnée car elle n'en a pas fait assez pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle n'a pas atteint ses objectifs et sa législation comporte de graves lacunes, d'après la Cour. Et cela porte atteinte aux droits de l'homme, le droit à une vie de famille. Le réchauffement climatique menace la vie quotidienne des citoyens européens. C'est une décision historique pour Corinne Lepage, présente lors de l'audience.
L'association des seniors Innen est recevable et c'est ce qui permet d'affirmer le principe qui va pouvoir être utilisé dans toute l'Europe. Et c'est en ça que c'est une décision vraiment historique.
Yannick, la France aussi était poursuivie par l'ancien maire de Grande-Synthe pour les mêmes raisons, mais Paris n'a pas été condamné.
Et oui, la France échappe à une condamnation, mais pour un détail, hein, parce que dans l'affaire qui la concerne, Damien Carême, l'ancien maire de Grande-Synthe, qui avait déposé cette requête, a déménagé depuis. Il n'est donc plus recevable aux yeux de la Cour. On n'a donc pas examiné la législation française, mais Damien Carême se félicite de cette journée, puisque la condamnation de la Suisse ouvre la porte à toutes les associations européennes.
Oui, la recevabilité de la requête a été acceptée aujourd'hui et reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme. Et voilà, c'est la voie ouverte aujourd'hui à d'autres cas de citoyennes et de citoyens européens qui trouvent que leur gouvernement met en jeu leur vie et met en jeu leur droit à la vie de famille saine, à un environnement de qualité. Donc voilà, la voie est ouverte aujourd'hui.
Les gouvernements européens vont donc devoir redoubler d'efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Yannick Collant à Strasbourg pour RTL. Eux recouvrent 70% de la Terre et ils n'échappent pas au changement climatique. Jamais nos océans n'ont été aussi chauds. Plus de 21 degrés en moyenne mesurés à leur surface, en excluant évidemment les zones proches des pôles. Selon Copernicus, c'est du jamais vu. Finalement, les négociations sur l'emploi des seniors ont redémarré au milieu de matinée après une séance laborieuse et qui devait déjà être la dernière hier. Syndicats et patronats sont donc une nouvelle fois retrouvés ce matin.
Oui, mais nous, on dresse l'état des lieux avec les auditeurs d'RTL. Vous êtes vous-même un senior en recherche d'emploi, en formation, ou vous êtes vous-même chef d'entreprise. Quelle est votre attitude avec les plus de 55 ans? Eh bien, on attend vos témoignages au 3210.
RTL Midi.
Bon, Paris-Moscou, ça chauffe. Hein. Une semaine après le coup de fil entre les ministres des armées russes et françaises, les comptes rendus très différents qui en ont découlé, eh bien Paris a décidé de changer de ton.
Mais les responsables français n'ont pas vraiment apprécié les déclarations des autorités russes, les accusant de mentir et même à demi-mot d'être potentiellement derrière l'attentat qui a visé une salle de concert de Moscou. Alors cette fois, c'est décidé, Sophie Jousselin, plus question de parler aux Russes.
Oui, après les propos tenus par le ministre russe des armées, propos qu'Emmanuel Macron avait qualifié de baroque et menaçant, Stéphane Séjourné dit niet à la Russie. Interrogé sur RFI, le ministre des Affaires étrangères a expliqué que Paris ne décrocherait plus son téléphone pour parler avec Moscou, que ça ne servait plus à rien.
Je crois que c'est pas aujourd'hui notre intérêt de discuter avec les responsables russes, puisque les communiqués qui sortent et les comptes rendus qui en sont faits sont mensongers. Et donc il faut d'abord peut-être rétablir la confiance pour que les relations puissent se renouer.
En appelant son homologue russe la semaine dernière, le ministre français des armées souhaitait transmettre des informations sur l'attentat qui venait de frapper Moscou. Il y avait une longue tradition dans le domaine du terrorisme entre les deux pays, a rappelé Stéphane Séjourné pour justifier cet appel. Le ministre qui a ajouté que l'attitude de la Russie était le signe que Moscou ne souhaitait plus collaborer avec Paris.
Sophie Jousselin du service international d'RTL. La météo, Caroline Chibon, vous retrouve vous et Pierrick.
Oui, effectivement, si les vigilances vagues submersion viennent d'être levées pour la côte aquitaine, elles sont maintenues pour le Finistère, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, les côtes d'Armor, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais. Soyez vigilants puisque les forts coefficients de marée couplés à la tempête Pierrick donnent lieu donc à des vagues impressionnantes. Des vagues de plus de 4 mètres ont été mesurées ce matin à Belle-Île, par exemple. Côté ciel, cet après-midi, le soleil sera bien présent autour du golfe du Lion. Partout ailleurs, c'est plus instable. On alterne entre belles éclaircies et passages d'averses, des averses qui part en droit pour s'accompagner de coups de tonnerre. Elles seront de plus en plus denses, ces averses, au fur et à mesure de la journée, notamment dans le quart sud-est et toujours sur les côtes de la Manche. Les températures, elles baissent. Vous l'aurez constaté en Alsace, par exemple, il fera plus frais cet après-midi que ce matin. Il faisait 14 dans la matinée, on attend 11. 11 comme à Dunkerque également, 12 à Brest, 13 pour Paris, Lyon ou Bordeaux, 16 pour Perpignan ou pour Nice et une maximale de 19 degrés à Ajaccio sous les nuages.
Merci Caroline.
RTL Midi, un jour chez vous.
Au quotidien sur RTL, chaque jour à cette heure-ci, l'info au plus près de vous. Et aujourd'hui, on va à Marseille, on va rue de Tivoli. Bonjour Étienne Baudu.
Étienne, qu'on vous retrouve rue de Tivoli.
Bonjour.
Ah. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Où un hommage était rendu ce matin, Étienne, un an après l'explosion qui a fait 8 victimes, c'était le 9 avril 2023.
Oui, une minute de silence et des bouquets de fleurs déposés sur la grille qui barre encore la rue de Tivoli avec en arrière-plan les étais qui soutiennent les immeubles fragilisés par l'explosion. Un bouquet pour chacune des 8 victimes. Dans l'assistance silencieuse, de nombreux délogés, alors la plupart par connaissance ou dans leur famille, ont un toit aujourd'hui. D'autres restent en revanche relogés en appart-hôtel. C'est le cas de Laura, 35 ans, et de sa maman de 71 ans depuis un an dans 20 mètres carrés.
Dès le départ, on a dit « oui, vous allez être prioritaire, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, vous n'allez pas rester seul et tout ça ». Et en fait, c'est faux. Il se passe absolument rien. Donc c'est vraiment fatigant de devoir tout le temps faire les démarches pour essayer de voir où notre dossier en est, s'ils peuvent nous aider. Il y en a des fois, ils nous disent « oui, on vous a mis en haut de la liste au niveau des bailleurs sociaux et tout ça ». Et en fait, ben aucune proposition, rien n'est fait. On ne peut pas se projeter, il n'y a pas d'avenir, c'est pas facile quoi.
Voilà, et puis aussi, Étienne, il y a les propriétaires, ces propriétaires qui ont tout perdu et qui, depuis un an, se battent avec les assurances.
Et oui, car du côté des assurances, donc, ça traîne. En réalité, les sinistrés ont la très désagréable sensation d'être baladés. Ils sont priés d'attendre un dénouement judiciaire. Tant qu'aucun responsable n'est désigné, les assureurs ne veulent pas se mouiller. Et pour Roland, qui a tout perdu, son appartement se trouvait dans l'un des deux immeubles qui s'est effondré, et bien pour Roland, c'est un parcours du combattant exténuant.
On voit que n'importe quelle expertise prend des mois pour se mettre d'accord. Donc vraiment, c'est la stratégie d'assurance, c'est vraiment en fait d'appeler à l'optimiste, de s'acheter du temps pour finalement ne rien faire et nous avoir à la fin.
D'où la volonté du collectif qui s'est créé de forcer les assureurs à accepter la création d'un accord cadre permettant une couverture globale sans attendre l'issue judiciaire. Donc un accord à l'image de celui mis en place suite à l'explosion de la rue de Trévise, vous en souvenez, à Paris en 2019. Mais pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir de la part des compagnies d'assurance. Le collectif qui réclame également une loi qui pourrait justement intervenir en cas d'accident collectif comme celui de la rue de Tivoli.
Étienne Baudu en direct de Marseille pour RTL. Merci Étienne. Dans un instant, on développe un titre de l'actualité.
Et l'embellie peut-être enfin dans le secteur de l'immobilier, puisque ça y est, les taux des crédits hors assurance baissent.
Bon, petite baisse, mais c'est la première depuis 2 ans.
A tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, avec Vincent Parisot et Céline Landreau.
Et si c'était la fin de la crise qui frappe le secteur de l'immobilier depuis plus de 2 ans? En tout cas, ça, c'est un fait. Pour la première fois depuis début 2022, le taux d'intérêt des prêts immobiliers hors assurance est reparti à la baisse.
Oui, c'est le constat de la Banque de France. Alors, une baisse modérée, très modérée. Pour l'instant, on parle de 4,17% en janvier à 4,11% en février dernier. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Vous suivez ces questions immobilières pour RTL. Bon, cette tendance, même si ce n'est qu'une amorce, elle devrait se poursuivre.
Oui. En fait, ce qui fait bouger les taux de crédit immobilier, c'est un autre taux, celui de la BCE, la Banque Centrale Européenne. C'est la banque de nos banques. L'explication des hausses de ces 24 derniers mois, c'était l'inflation. Il fallait freiner la consommation. Objectif atteint, elle baisse 2,4% en mars. Donc non seulement la BCE ne relève plus ses taux, mais en plus elle devrait les baisser dans les prochains mois. C'est un peu technique, mais ça veut dire que nos banques empruntent moins cher et donc qu'elles nous prêtent moins cher. Et ça, on commence à le voir. C'est la première fois depuis 2 ans que ça baisse hors assurance, dit la Banque de France. Mais tout compris, les courtiers, eux, le constatent depuis le mois de décembre. Chez Meilleur Taux, on est passé d'un taux de 4,45% sur 20 ans en novembre à 3,85% aujourd'hui.
Avec l'assurance, là.
Ouais, avec l'assurance. Donc, on est au-delà d'un demi-point de moins. Ça baisse un peu tous les mois. Ça tient aussi au fait que certaines banques recommencent à prêter. Ça fait jouer la concurrence. Et donc, c'est pour ça que la baisse est plus importante que ce que dit la Banque de France.
Non, le vent est peut-être en train de tourner. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter. Parce que ça veut dire concrètement que les prêts vont être plus faciles à obtenir.
C'est ça. Ce sont les taux qui freinent les acheteurs. Ça fait 2 ans qu'ils sont contraints de revoir leurs ambitions à la baisse. Un dossier qui était finançable un mois, eh ben, il n'était plus le mois suivant. Il fallait soit acheter plus petit, soit plus loin des centres-villes. La production de crédit s'est effondrée, moins 66% depuis le début de la crise. Si la tendance actuelle se confirme, c'est tout l'inverse qui va se produire. D'abord, la valse des dossiers retoqués, c'est terminé. Un projet finançable aujourd'hui, eh ben, il sera toujours le mois prochain, voire il sera encore plus intéressant puisque le taux pourrait baisser. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous avez 1 500 euros de budget à mettre tous les mois. À 4,5%, vous empruntez 250 000 euros. À 4%, vous empruntez 265 000. C'est 15 000 euros d'emprunt que vous avez en plus, là, depuis le mois de novembre, si on se fie aux chiffres du courtier Meilleur Taux. Si vous n'avez pas besoin d'emprunter plus, qu'il vous faut 250 000, et ben là, c'est la mensualité qui baisse. C'est-à-dire que pour avoir cet argent, il ne faudra plus mettre 1500 euros. Mais 1400 euros, 100 euros d'économie tous les mois, c'est quand même
c'est
pas négligeable.
On prend. Toujours pris. Mmh. Autre signal positif, Pierre, en tout cas pour les acheteurs, hein, évidemment, les prix qui continuent de baisser.
Oui, ça c'est ce que nous apprend le dernier baromètre de Century 21. Prix moyen d'une maison au premier trimestre, 2450 euros du mètre carré, 3,3% de moins que l'an dernier. Pareil pour les appartements, on est à 4000 euros du mètre carré, mais la tendance est à peu près la même, moins 3% environ sur un an. À Paris, on fait même moins 9%. Le prix du mètre carré s'approche des 9000 euros. On n'avait pas vu ça depuis 14 ans. C'est un rééquilibrage naturel du marché. C'est normal, on ne pouvait plus emprunter. Donc les prix sont obligés de baisser. C'est trop peu pour compenser la remontée des taux. C'est pour ça qu'on est toujours sur une production de crédit qui est faible. Mais si les taux, comme on est en train de le dire depuis tout à l'heure, recommencent à baisser, alors la production de crédit va repartir.
Prix vont recommencer à baisser.
On verra, c'est sur du temps long. On est sur une tendance baissière. C'est l'espoir des courtiers, c'est l'espoir des architectes, des agents immobiliers, des notaires, même des magasins de bricolage, ça vous dit un peu tout le monde qui vit autour de cet écosystème immobilier.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai un projet immobilier, est-ce que je dois foncer tout de suite ou attendre que les prix baissent encore et attendre encore un petit peu?
Ça, c'est la question à $1 million oui. Qu'on pose tous les six mois.
On n'a pas ce million, Pierre, alors dites-nous.
Alors, je vais vous dire plutôt non. La stratégie d'attendre est plutôt risquée. Si les taux continuent de baisser et que les achats-ventes repartent, alors la concurrence entre les acheteurs va se corser. Si vous trouvez un bien qui correspond à vos attentes aujourd'hui, vous pouvez gagner peut-être 0,2-0,3% de taux sur votre taux de crédit en attendant 1, 2 ou 3 mois, mais peut-être que l'appart, il aurait été vendu à quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu risqué d'attendre. Ensuite, spéculer sur une baisse des taux, c'est la tendance actuelle, mais on ne sait jamais avec la conjoncture. On parlait d'âge d'or de l'immobilier en 2021, de crise en 2022, donc ça peut aller très vite. Donc je dirais, faites attention aussi là-dessus. Et puis enfin, la dernière chose à dire, c'est que le système de taux, il est plutôt favorable aux acheteurs en France. Les taux sont fixes. Vous achetez à 4%. Si ça baisse, vous restez à 4%. Si ça augmente aussi, le truc qui est bien, c'est que quand ça baisse, vous pouvez renégocier votre taux de crédit. Si dans un an, on est passé à 3% sur 25 ans, et ben là, vous faites toc-toc, monsieur le banquier, ça m'intéresse de renégocier mon crédit. Il vous dit non. Vous allez voir le concurrent en face et il va vous dire, on vous rachète le crédit à 3%. Donc en fait, ça sert à rien d'attendre. Si ça baisse, vous pourrez renégocier et gagner de l'argent à ce moment-là.
Merci beaucoup. Il est fort.
Ah ouais, on va vous embaucher pour gérer nos comptes. Personnellement, je pense que ça m'arrangerait. Et si ça vous dit, on vous offre un petit kawa. Ça vous va?
Grand plaisir.
À tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL Midi. Votre vie.
Et oui, votre vie, c'est l'info qui fait votre quotidien. Et quand je vous proposais un petit kawa, c'était pas pour rire.
Tu veux préparer le café noir?
Près de 7 Français sur 10 en sont des buveurs réguliers, selon l'Institut YouGov. Au petit déjeuner, après le repas ou pour une simple pause dans la journée, vous êtes nombreux à être accros au café. Mais il y a café et café. Oui. Bonjour Antoine Létien.
Bonjour.
Vous êtes torréfacteur, cofondateur des Cafés Fira et fondateur de l'École Nationale Supérieure du Café.
Oui.
Merci pour le café.
D'abord, parce que vous êtes arrivé avec des
échantillons. Qu'est-ce qu'on boit là?
Avec le temps qu'on a en ce moment, c'est parfait. C'est un petit café éthiopien.
Ouais.
Qui est assez délicieux. Sur le côté fruité et floral. C'est très léger.
C'est assez marrant parce qu'on parle du café comme du vin.
Oui. Oui, on a autant de complexité dans le café que dans le vin.
Pour bien le consommer, justement, le café, d'abord, il faut quelle machine? Cafetière à filtre, à capsule, à percolateur?
Tout ce qui va pouvoir permettre d'extraire des cafés qui ont été torréfiés et mis en grain. Il vaut mieux utiliser du grain que du café prémoulu.
D'accord.
Que ce soit la capsule, il faudra essayer de s'en sortir.
Petit il faut petit, sortir, il faut oublier la Nespresso. Pas facile parce qu'elle a dû prendre 80% du marché. Hein.
Je sais. Mais on a Brad Pitt maintenant.
C'est vrai.
Brad Pitt contre George Clooney.
Ouais.
Et on espère qu'il va gagner la bataille justement sur le grain.
Si on veut des arômes, il faut du café en grain qu'on moue, j'allais dire à la minute.
À la minute, toujours. Ça, c'est le secret du café de qualité.
Parce que sinon, ça s'évente.
Ça s'évente, ça s'oxyde, c'est plat. Et souvent, ce sont des cafés qui, en plus, ont été brûlés, carbonisés, qu'on trouve en supermarché dans les petites briques. Et on a éliminé, depuis les années 80, vraiment l'image de la fraîcheur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vos parents avaient les petits
moulins. Et puis, on se souvient aussi des odeurs, des torréfacteurs que l'on trouvait dans les centres-villes. Alors, ils ont quasiment disparu, ça revient un peu.
Ah, ça explose. Ouais. Bon, ça revient, c'est pour ça que j'ai créé une école dessus. Là, on est sur le retour des ce qu'on appelle les néo-torréfacteurs, c'est-à-dire c'est une nouvelle génération de torréfacteurs qui s'intéresse à tout, à l'extraction, mais aussi bien sûr à la torréfaction, de l'origine, et qui vont vous parler du café comme on vous parle du vin.
Alors justement, l'origine, quelle variété ? On entend parler d'Arabica, de Robusta, de Prix qui flambe, qu'est-ce qu'on doit choisir ?
Ça, c'est le grand mystère. Les Français patauge un petit peu dans les compréhensions.
Il se trouve qu'on est français.
Oui, oui tout à fait. On a du mal à voir la différence, mais imaginez que l'Arabica et le Robusta sont deux plantes totalement différentes. Un petit peu comme le citron et l'orange, ou le kumquat et l'orange.
D'accord.
C'est vraiment deux choses différentes. Le Robusta est un peu le grand-père, on va dire, de l'Arabica, mais l'Arabica est toujours beaucoup plus fin aromatiquement. Le Robusta, c'est une question de coût. On va le rajouter pour faire descendre le prix. Mmh. Il va souvent être carbonisé. Et dans ce Robusta, c'est ce qui vous brûle un petit peu l'estomac. On a quand même beaucoup de caféine. Plus de caféine dans le Robusta.
Donc Robusta, c'est du sévère.
C'est du costaud.
C'est plutôt le café du matin pour se réveiller.
Bon, il vaut mieux l'éviter totalement.
Ah, voilà,
totalement.
C'est du trop costaud.
C'est trop costaud.
Il faut plutôt aller sur de l'arabica, si j'ai bien compris.
100% arabica, oui. 100% arabica.
Bon, bah, écoutez, on a...
Aromatiquement, vous vous sentirez mieux le matin plutôt que des choses qui vous agressent un petit peu à l'estomac, pour la digestion, pour...
Vous dites que les Français sont un peu perdus entre Robusta et Arabica. Est-ce que leurs goûts, quand même, ont évolué ces dernières années ? Est-ce qu'il y a une quête de café un peu différente ?
Depuis ces 10 dernières années, oui. J'ai essayé d'y travailler aussi ardemment. On a tous ces nouveaux torréfacteurs, ces nouveaux cafés, cet nouvel engouement. Et surtout, on voit même dans les supermarchés des supermarchés qui s'occupent de représenter maintenant les torréfacteurs locaux. Mmh. On retrouve, ça y est, enfin... l'esprit de fraîcheur. On voit d'ailleurs avec l'explosion du grain dans les machines, enfin dans les supermarchés, sur les rayons, pour les machines justement, et pour moudre fraîchement avant de consommer son café.
À quoi fait attention quand on le choisit ? Justement, vous parlez des rayons des supermarchés. Bon, il y a l'origine, évidemment.
Bien sûr, parce qu'on a un manque de transparence et aussi la fraîcheur. Il faut regarder la date de torréfaction. Parce qu'une fois que le café est torréfié, qu'il est transformé, il va être optimal, on va dire, sous 4 semaines. Vous pouvez le consommer sous 2 mois. Ce n'est pas un produit éternel.
Bon, le café, ouais. C'est bon à la santé ou pas ?
C'est magnifique.
C'est vrai. Le débat dure depuis des décennies.
Oui.
On l'a jamais vraiment tranché, mais enfin...
Ça revient assez régulièrement sur le fait que c'est un anti-parkinsonien. C'est bon comme stimulant pour la mémoire. Enfin,
vous en buvez combien par jour ?
Combien de litres ? de café.
Combien de tasses de café ?
Combien de
tasses comme ça ?
Il vaut mieux essayer d'éviter plus de 8 espressos par jour, si possible, pour éviter d'être un petit peu en tachycardie, de courir un peu dans tous les sens. Mmh, mmh. Surtout que la caféine met un petit peu de temps avant de faire effet. Ça ne sert à rien de boire 3-4 cafés d'affilée au petit matin.
D'accord, donc ça ne sert à rien. Et puis on évite le café après 17 heures.
Tout dépend des sensibilités. Bon, les Suédois boivent des bols de café à 8 heures.
Mais ce n'est pas vraiment du café, ça c'est du jus de chaussette.
Les jus de chaussette sont plus caféinés que les espressos.
Ah, faut faire attention.
Le filtre est plus caféiné que l'espresso, à la base.
Ouais. Eh ben, c'est noté, puis nous on va profiter de votre venue, on va boire du café jusqu'à la fin de l'émission.
Oui, j'espère que ça vous donne une bonne énergie.
On va avoir la pêche, c'est ça.
Exactement.
Merci beaucoup. Antoine Nettien. Merci. On rappelle que vous êtes torréfacteur, cofondateur des Cafés Fira et fondateur donc de cette École Nationale Supérieure du Café.
Oui, il faut se former, aller chez votre torréfacteur, surtout, très important.
Allez, merci. Courte pause et après un petit café, toute l'info.
RTL Midi. Céline Landreau et Vincent Parisot.
RTL, s'informer ensemble.
Il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30. 7h30, Céline Landreau, Hermine Leclèche.
Et à midi et demi, effectivement, votre grande édition de la mi-journée vous est présentée par Hermine Leclèche. Bonjour Hermine.
Bonjour Céline, bonjour Vincent, bonjour à tous. Doit-on interdire les grèves des transports pendant les périodes de forte influence? Les sénateurs se penchent aujourd'hui sur la question. Précision dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, un homme de 23 ans placé en garde à vue après avoir agressé un brancardier en Vendée ce week-end. Les océans qui battent des records absolus de température. Et puis PSG-Barça, c'est demain. On verra comment les Espagnols redoutent un joueur en particulier. Je vous le donne en mille, Kylian Mbappé.
Après le journal, comment sécuriser une cérémonie d'ouverture avec 600 000 personnes à un peu plus de 3 mois du début des Jeux Olympiques de Paris? Les autorités rassurent. Spectateurs, bénévoles, salariés, tous seront passés au crible. Juste avant 13h, laissez-vous tenter midi. On parlera littérature tout à l'heure avec Bernard Lehu. Et d'un destin très particulier, celui de la cuisinière des Kennedy, une pupille de la nation devenue proche de la famille iconique des États-Unis.
Et puisque vous parlez de littérature, lecture, livre, avec les auditeurs d'RTL tout à l'heure, on va parler du temps de lecture qui s'effondre chez les jeunes. Les jeunes, les 7-18 ans, passent 10 fois plus de temps sur les écrans que sur les livres, même que ce soit des mangas ou des BD. Ça inquiète de plus en plus. On en parle. 32-10.
La météo, Claire, c'est très alternatif aujourd'hui.
Oui, toujours plusieurs départements du Nord-Ouest en alerte orange. Vague submersion, on surveille les crues dans l'Eure et en Seine-Maritime. Et hormis un soleil bien persistant dans le golfe du Lion, on alterne entre averses et éclaircies partout ailleurs.
Merci Caroline. Météo complète à la fin de ce journal.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
À un peu plus de 3 mois, on le disait, désormais des Jeux Olympiques, le droit de grève dans les transports pourrait bien être limité par les sénateurs.
Ils examinent une proposition de loi cet après-midi afin d'interdire même les grèves dans des moments clés. Nathan Bocard, bonjour.
Bonjour.
On parle là notamment des vacances scolaires et des jours fériés.
Exactement, les périodes de grand départ auxquelles on ajouterait les jours d'élection par exemple, ou encore, je cite, les événements d'importance majeure. Les Jeux Olympiques pourraient donc en faire partie. En fait, ce texte, il propose d'offrir au gouvernement un quota d'interdiction de grève, 30 jours par an, pendant lesquels il pourrait priver certains salariés de ce droit, avec une limite dans le temps, pas plus de 7 jours d'interdiction d'affilée.
Et ça concernerait tous les salariés ?
Non, uniquement les agents indispensables au transport ferroviaire. Les sénateurs voulaient à la base y inclure l'aérien, finalement ce ne sera pas le cas. Et puis l'interdiction de faire grève, elle porterait uniquement sur les heures de pointe, c'est-à-dire le matin et donc le soir. Mais ça n'est pas tout. Les sénateurs veulent aller plus loin, notamment s'attaquer au préavis dormant. Je vous donne un exemple. En ce moment même, la CGT des transports parisiens, elle est couverte par un préavis qui va de février à septembre. Avec ce texte, si aucun agent ne se déclarait en grève au bout d'un certain temps, eh bien le préavis s'annulerait purement et simplement. Enfin, une disposition fait aussi bondir les syndicats. Actuellement, ils doivent se déclarer grévistes 48 heures avant de débrayer. Eh bien, les sénateurs proposent de passer ce délai à 72 heures.
Merci Nathan Bocard, spécialiste transport pour RTL. Une proposition de loi examinée alors qu'une grève de la fonction publique n'est toujours pas exclue pendant les Jeux Olympiques. Sophie Binet était l'invitée de RTL ce matin. On interdira à personne de faire grève pour défendre ses droits, a martelé la patronne de la CGT au micro de Yves Calvi.
On va réagir avec les auditeurs d'RTL, évidemment. Faut-il limiter le droit de grève, sanctuariser donc certaines périodes, notamment celle des Jeux Olympiques ou encore les départs en vacances? La grève pendant les Jeux, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce légitime, utile? Vous avez la parole, vous pouvez réagir dès maintenant, 32-10.
RTL Midi.
Un homme de 23 ans placé en garde à vue après la violente agression d'un brancardier en Vendée.
Ça s'est passé dimanche aux urgences de Challans. Ce jeune homme estimait que le temps d'attente était trop long, Mathieu Lopineau.
Oui, ce jeune homme de 23 ans accompagnait son père et son cousin samedi soir à l'hôpital de Challans. C'est le système de vidéosurveillance qui a permis d'identifier le suspect. L'homme est entendu en ce moment par les enquêteurs, d'après la procureure de la République des Sables-d'Olonne. Il aurait estimé que la prise en charge de ses proches samedi soir à l'hôpital n'était pas assez rapide. Le soignant agressé a donc reçu plusieurs coups. Il lui a été notifié une ITT, une interruption temporaire de travail de plus de 8 jours. Il est toujours en soins intensifs, mais son état s'améliore. Il a donc pu être auditionné dimanche matin par les enquêteurs. L'enquête pour violence contre personnel médical se poursuit et l'hôpital a porté plainte.
Merci Mathieu Lopineau, correspondant RTL dans l'Ouest. Les obsèques de Shemseddine auront lieu aujourd'hui à 13h30 à Morsang-sur-Orge en Essonne. Shemseddine, cet adolescent de 15 ans, roué de coups et assassiné la semaine dernière à la sortie de son collège à Viry-Châtillon. Une enquête est ouverte désormais pour homicide volontaire concernant l'incendie de la rue de Charonne ce week-end dans le 11e arrondissement de Paris. L'une des trois victimes de l'incendie présente, je cite, une plaie compatible avec un tir d'arme. D'après nos informations, des témoins indiquent avoir entendu deux détonations en milieu d'après-midi avant l'incendie.
C'est une première. La Suisse condamnée ce matin pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme.
La Cour était saisie par une association de femmes suisses. Ce jugement crée une jurisprudence, acte pour la première fois la responsabilité des États concernant leur politique environnementale.
Un jugement inédit alors que les températures, elles, battent des records.
Dans l'air et dans les océans, ils n'ont jamais été aussi chauds, alerte aujourd'hui l'Observatoire européen Copernicus. Virginie Garin, vous nous avez rejoint. En fait, ça fait près d'un an que la planète bat des records.
Oui, depuis avril dernier, chaque mois, la température à la surface des océans bat des records. Elle est systématiquement supérieure à celle mesurée toutes les années précédentes, avec un record absolu ce mois de mars, 21,07 degrés. Selon Copernicus, ce sont des scientifiques qui travaillent pour l'Union européenne. Eh bien, cette surchauffe menace la vie marine, les coraux, et puis elle crée plus d'humidité dans l'atmosphère, ce qui veut dire plus de cyclones, de vents violents, de risques de pluies torrentielles. Et il y a la température de l'eau, mais aussi celle de l'air. Là, on en est au 10e mois consécutif de record. Alors, deux explications. El Niño, c'est un courant marin qui revient tous les 2 à 7 ans, qui réchauffe le Pacifique et qui est, selon les climatologues, en train de s'affaiblir. Donc, à partir d'avril-mai, on pourrait arrêter de voir cette série de records. Mais El Niño ne fait qu'amplifier une autre cause, le réchauffement lié, lui, aux activités humaines. Donc, même si le phénomène s'atténue cet été, on devrait continuer à avoir des températures supérieures au normal. En fait, les météos exceptionnelles, telles qu'on les voit en ce moment, sont en train de devenir des météos normales.
Merci Virginie Garin, spécialiste environnement pour RTL.
Au Proche-Orient maintenant, Netanyahou persiste, il veut attaquer Rafah, la ville du sud de Gaza à la frontière égyptienne.
Où s'entassent désormais, je le rappelle, plus d'un million et demi de Palestiniens. Ce matin, Emmanuel Macron, le président égyptien et le roi de Jordanie, mettaient en garde l'État hébreu sur les conséquences dramatiques que pourrait avoir une telle opération. La Turquie a déjà annoncé l'arrêt de ses exportations vers l'État hébreu. D'autres États pourraient bien suivre, notamment concernant les ventes d'armes. Bénédicte Tassar, bonjour.
Bonjour.
C'est une menace, les exportations d'armes vers Tel Aviv, que pourrait bien faire planer Washington notamment.
Oui, et les États-Unis, principal fournisseur d'armes à Israël, pourraient jouer de ce levier si Washington estime que l'attaque israélienne de Rafah franchit la ligne rouge. 70% des armes importées en Israël sont américaines, plus 4 milliards de dollars de subventions annuelles aussi, pour construire l'armée la plus sophistiquée au monde, avec des avions furtifs F-35 ou encore la défense antimissile qui forme le dôme de fer dans le ciel israélien. Deuxième fournisseur, l'Allemagne, qui a multiplié par 10 en un an l'envoi de composants pour la défense aérienne et les équipements de la communication de l'armée israélienne. L'Allemagne, qui encore ce matin insiste sur le fait que la sécurité d'Israël est au cœur de sa politique étrangère. Quant à la France, le poids de ses exportations d'armes vers Tel Aviv est infime. C'est du tout petit matériel, décrit par le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu.
Vous avez des licences qui ne concernent que des matériels dont la vocation est à réexportation. La licence française qui a été donnée ne donne pas droit à l'armée israélienne d'utiliser ces composants. Deuxième des choses, vous avez en revanche des composants qui vont dans des systèmes purement défensifs. Pareil, jamais d'armement, toujours des petits composants, des roulements à billes, des écrous usinés de manière particulière. C'est notamment le cas des petits composants du dôme de fer. On est sur un matériel, comme vous le savez, qui est strictement défensif et qui n'intervient pas dans la bande de Gaza.
Et cela représente 0,2% seulement des exportations françaises d'armement.
Merci Bénédicte Tassar, chef du service international de RTL.
RTL Midi.
En football, J-1 maintenant avant le choc tant attendu entre Paris et Barcelone.
Quart de finale aller de la Ligue des Champions, ce sera demain soir au Parc des Princes. Et un de nos joueurs est particulièrement redouté par les Espagnols. On s'en doute, Kylian Mbappé, qui est attendu l'année prochaine à Madrid. Mathias Valton.
Oui, pour Kylian Mbappé, c'est déjà un classico avant l'heure. Avant de l'affronter dans le championnat espagnol, les supporters barcelonais estiment qu'il est la menace principale du PSG et craignent déjà qu'il les élimine de la Ligue des Champions.
Il lui suffit juste de deux ou trois ballons pour marquer. C'est leur joueur déterminant. Si on arrive à l'arrêter, on a 80% de chances de passer.
À Madrid, les supporters du Real salivent, eux, de voir à l'œuvre Mbappé face à leur ennemi juré. Comme David, ils seront d'ailleurs tous derrière lui dès ce soir et rêvent que leur futur recrue joue un mauvais tour au Barça.
Il va venir au Real et il n'y aurait rien de mieux qu'il mette déjà deux ou trois buts au Barça. Pour ce quart, je supporte le PSG uniquement parce qu'il y a Mbappé. Et ce qu'on veut, c'est qu'il élimine le Barça à tout prix. Rien que de l'imaginer, je saute de joie.
Si Mbappé veut définitivement conquérir le cœur des supporters madriennes avant son arrivée, il sait donc ce qu'il lui reste à faire, mettre à genoux le Barça, leur éternel rival.
Reportage de Mathias Valton à Madrid, en Espagne.
Merci beaucoup Hermine Leclèche. Le temps, Caroline, pour cet après-midi, ça souffle encore sur le nord du pays. Hein.
Oui, certaines alertes viennent d'être levées, mais restent en vigilance orange, vague submersion, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais. Elle vient d'être levée pour la Bretagne et le Cotentin. Par ailleurs, toujours deux départements en vigilance orange au cru, l'Eure et la Seine-Maritime à nouveau. Côté ciel, cet après-midi, le soleil sera bien présent autour du golfe du Lion, avec du vent, ça soufflera en rafale jusqu'à 80 km/h. Partout ailleurs, en revanche, c'est plus instable. On alterne entre belles éclaircies et passages d'averses. Des averses qui pourront même virer au tonnerre dans la soirée, notamment dans le quart sud-est. Côté température, on attend 11 à Colmar ou à Béthune, 12 pour Quimper, 13 à Paris, Villeurbanne ou à Libourne, 17 à Marseille et jusqu'à 19 degrés sur l'île de Beauté.
Merci Caroline. Dans un instant, 600 000 personnes attendues autour de la Seine dans un peu plus de 3 mois. Maintenant, ce sera le 26 juillet prochain, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Comment sécuriser tout ça? Les réponses dans un instant.
Céline Landreau, Vincent Parisot.
RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Vincent Parisot.
RTL Midi.
On est donc à un peu plus de 3 mois du début des Jeux Olympiques et on a un grand défi à relever. En tout cas, les autorités ont un grand défi à relever. La sécurisation de la cérémonie d'ouverture. On attend quelques 600 000 spectateurs sur les bords de Seine. Ce sera le 26 juillet. Et pour en parler, on accueille Isabelle Langer et Valentin Boissé.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se veut rassurant dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Car n'importe qui ne pourra pas s'approcher de la Seine le 26 juillet prochain, Isabelle.
Ah, effectivement, le public de la cérémonie va se diviser en plusieurs groupes. Il y a d'abord les spectateurs payants. 104 000 personnes possèdent des billets pour les quais bas afin de voir passer les quelques 180 bateaux dont 94 transporteront les athlètes. 222 000 personnes seront cooptées. Ce sont les fameuses places gratuites, vous savez, émanant d'invitations de la part des collectivités. Mmh. Ces invitations permettent d'exercer un contrôle supplémentaire pour le public présent. Et il ne faut pas oublier les 200 000 personnes qui assisteront à la cérémonie depuis leur péniche ou leur balcon. Ces privilégiés, hein, parce qu'ils le sont, faut pas se le cacher, devront tout de même montrer patte blanche pour entrer dans la zone de sécurité au cœur de Paris, notamment aux abords de la Seine sur le parcours du défilé. Ils devront donc s'inscrire, comme on l'a déjà dit, hein, via la plateforme dédiée qui ouvrira le 10 mai prochain afin de recevoir un QR code. Et sans ce précieux sésame, eh bien, pas de passe-droit.
Très bien, on a noté ça. Mais il n'y a pas que les spectateurs, il y a aussi tous les autres acteurs qui vont œuvrer pendant ces Jeux, Valentin.
Absolument, on parle là des volontaires, des relayeurs de la flamme et des employés qui vont agir sur les sites des compétitions. Au total, 1 million de profils sont scrutés par le ministère de l'Intérieur. Pour le moment, 195 000 ont été passés au tamis et lors des enquêtes administratives, on a déjà recensé 161 fichiers S, quasiment tous français. 105 ont été écartés pour islam radical, d'autres pour leur appartenance à l'ultra-droite ou l'ultra-gauche. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les 285 000 agents privés de sécurité qui font l'objet d'une attention toute particulière parce que certains portent des armes. Et à ce jour, Gérald Darmanin affirme qu'ils ont refusé 1392 personnes. Ça paraît beaucoup. Ils leur ont tout simplement retiré leur carte professionnelle car ils avaient un casier judiciaire, étaient fichés ou étaient en situation irrégulière.
Effectivement.
Bon, là, on parle de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, hein, le 26 juillet prochain à Paris. Donc, mais pendant les Jeux, il faudra sécuriser tout le territoire.
Bah bien évidemment, les sites olympiques à Paris en Ile-de-France, Lille où le stade Pierre-Mauroy accueillera toutes les deux heures un match de basket la première semaine, puis les phases finales du handball, sans oublier bien sûr Marseille où se tiendront les épreuves de voile et certains matchs de football, comme à Nice d'ailleurs, Lyon, Bordeaux et Nantes.
Absolument. Et pour ce faire, Gérald Darmanin se félicite ce matin qu'aucun policier et aucun gendarme ne prendra de vacances cet été. 100% des effectifs seront en service, car il n'y aura pas que les jeux à sécuriser, on le sait, hein, faudra aussi surveiller les plages, il donne cet exemple-là, mais on pense aussi aux frontières, aux aéroports, aux feux de forêt. Bref, la France va continuer de fonctionner pendant tout ce temps-là.
Aucune vacance pour les policiers et les gendarmes, en tout cas au moins jusqu'à la fin des Jeux. J'imagine qu'après les Jeux, ils pourront partir quand même, bah oui, un minimum. Dans une semaine, en tout cas, on sera à J-100 de cette cérémonie d'ouverture. Les choses sérieuses vont vraiment débuter, cela dit, dans quelques jours, le 8 mai, avec l'arrivée de la flamme à Marseille.
Oui, c'est déjà un événement d'ampleur à sécuriser. Le dispositif va d'ailleurs être quasiment le même que pour la cérémonie d'ouverture. Pour que la fête soit belle, les plaisanciers marseillais pouvaient s'inscrire il y a quelques mois pour participer à une parade du Bélem qui va ramener la flamme d'Athènes. Et bien, toute l'après-midi, cette parade va avoir lieu dans la rade de Marseille et va falloir opérer un déminage XXL. 3000 bateaux vont être passés au peigne fin par la police. En tout, il y aura plus de 50 unités de force mobile déployées. En plus des 3000 policiers et gendarmes des Bouches-du-Rhône, 150 000 curieux devraient être présents, dont des personnalités aussi à sécuriser comme Emmanuel Macron qui devrait venir à Marseille.
Et dès le lendemain, la flamme partira pour un relais exceptionnel. Alors, à travers la France, mais aussi les territoires ultramarins, ce dont Marie-Josée Pérec, notre nouvelle consultante pour les Jeux, s'est félicitée hier sur notre antenne. La triple championne olympique sera d'ailleurs sur le bateau qui emmènera la flamme de Brest en Guadeloupe début juin. Autant dire que là encore, la sécurité sera à son maximum. Personne n'a envie de revivre le fiasco de 2008. Cette année-là, la flamme avait fait le tour du monde avant d'arriver aux Jeux à Pékin. Et lors de son passage à Paris, des manifestants pro-tibétains avaient obligé les organisateurs à interrompre ce relais.
Eh bien, merci à tous les deux. On a le dispositif, notamment pour la sécurité. Avec tout ça, manquerait plus qu'il y ait une grève. Vous voyez, genre SNCF, RATP. Tiens, mais qu'est-ce que vous en pensez, justement, puisqu'au Sénat, on réfléchit. Il y a une proposition de loi visant à réglementer ce droit de grève et à, on va dire, interdire d'une certaine manière les grèves lors de quelques moments importants. Et on pense, bien sûr, aux Jeux Olympiques. Cela dit, dans un instant...
On va vous parler de l'incroyable destin de la cuisinière des Kennedy. Destin raconté par Valérie Pattureau. Et ce sera avec Bernard Lehu. À tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table comme chaque jour dans RTL midi. Et aujourd'hui, un destin extraordinaire, vraiment, le mot n'est pas galvaudé, qui nous est raconté dans un livre que vous nous recommandez vivement. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour Céline, bonjour Vincent. Le 28 septembre 1999, au cimetière de Valréas, dans le Vaucluse, on enterre une vieille dame, André Humbert. Sur sa tombe a été déposée une gerbe de fleurs décorée de la bannière étoilée du drapeau américain et accompagnée de ces mots « À André, avec amour et gratitude, la famille Kennedy ». Les 340 pages qui suivent vont nous révéler la clé de cet improbable hommage sous la plume captivante de Valérie Pattureau.
L'origine de cette aventure trouve sa place lors d'une agréable soirée d'été chez une amie il y a bientôt 2 ans, cela fera 2 ans l'été prochain. Une convive que je ne connaissais pas du tout raconte avoir rencontré une femme de la région au parcours de vie extraordinaire. Elle aurait été trouvée sur le parvis d'une église au début du XXe siècle. Et après de multiples aventures, elle aurait été cuisinière de la famille Kennedy. Évidemment, les convives sont bouche bée, la magie du nom Kennedy opère. Et moi, je trouve cette anecdote terriblement romanesque. Et à partir de ce moment-là, vraiment de façon nécessaire, je me lance sur les traces de cet André.
Donc elle se lance sur les traces de cet André, Valérie Pattureau. Elle commence donc l'écriture de son livre « La cuisinière des Kennedy ».
Oui, et elle prend contact avec les descendants d'André Humbert.
Il y a 3 petits-enfants. Ils ont une générosité absolument incroyable. D'abord, ils ont un souvenir merveilleux de leur grand-mère. Et leur générosité les pousse à me confier absolument tout ce qu'ils ont sur elle. Un gros carton, plein de photographies, de lettres, tout ce qu'elle a ramené des États-Unis. Et ils me confient ce carton. Je plonge là-dedans, je n'en reviens pas. Je trouve des photos de la famille Kennedy, à la neige, à la piscine, dans la mer. Enfin, je n'en reviens pas. C'est incroyable.
D'autant plus incroyable qu'André Humbert, abandonné à la naissance sur les marches de l'église de la Charité à Marseille, pupille de la nation, a été placé dans des familles de paysans de la Drôme. Valérie Patureau se plonge dans son dossier à l'assistance publique, et on peut accéder à tous les dossiers de l'assistance publique, et elle va reconstituer ainsi les 20 premières années de la vie d'André Humbert.
Elle avait confié à ses petits-enfants qu'elle avait toujours été heureuse. Et ça, je crois que c'est un point très important, parce qu'on a dans notre imaginaire des enfants placés à l'assistance publique en 1910. On les imagine malheureux, manger avec les animaux. Enfin, on imagine des choses horribles, d'ailleurs, qui ont existé. Mais il se trouve qu'André, elle a toujours été heureuse dans toutes les familles où elle est passée. Et ça, c'est un trait aussi de caractère. C'est une femme joyeuse, une enfant qui a dû être joyeuse, passionnée par la cuisine très vite, parce qu'on l'a mise au fourneau un peu, par obligation. Et elle s'est lancée, elle avait certainement un don en elle, je suppose. Mais par cette cuisine, elle apportait aux autres énormément de chaleur, de gaieté. Et cette cuisine l'a véritablement aidée à s'élever. Et c'est ce qui l'a conduit outre-Atlantique, ce qui est quand même incroyable.
Mais comment Bernard des fermes de la Drôme, André Humbert, se retrouve chez les Kennedy?
Ah ben ça, par une incroyable succession de rencontres. Un parcours qui tient du conte de fées, hein, quasiment. Sa réputation d'excellente cuisinière la précède. Les grandes familles se l'arrachent. D'abord dans sa région, là, dans le sud-est. Puis à Lyon, chez les industriels Berlier, par exemple. Ensuite, les frères Lumière. Il y aura la rencontre, après, avec l'éditeur Gallimard. Chez Albert Camus, dont elle va être la cuisinière également. Et puis, un riche couple d'Américains sur la Côte d'Azur qui lui propose finalement de l'emmener aux États-Unis.
Un couple proche des Kennedy, j'imagine.
Ben oui, et alors là, Rose, la matriarche du clan, la repère. André rejoint Yanis Porte, le berceau des Kennedy, où elle va partager les heures de gloire et les tragédies de la famille. Mais après l'élection, et là vraiment on va partager avec elle hein, toute la vie des Kennedy, c'est absolument passionnant. Et après l'élection de John, c'est avec le cadet Ted Kennedy que la relation sera la plus forte.
Parce qu'elle va durer jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort d'André. Les enfants vont continuellement lui écrire et vont venir surtout la voir ici, lorsqu'elle va être à la retraite.
Et on a les photos.
On a les photos et c'est incroyable parce qu'on la voit presque avec ses petites charentaises, on l'imagine avec son petit chignon. Et puis entourée par les enfants Kennedy, oui, qui sont venus, qui venaient régulièrement. Il y a vraiment des lettres, financièrement aussi, ils l'ont aidée jusqu'à la fin. Et Rose Kennedy lui a écrit, Rose Kennedy qui a vécu quand même jusqu'à 101 ans, lui a toujours écrit pour son anniversaire et pour le jour de l'an.
Le fabuleux destin d'André Humbert, l'orpheline devenue la cuisinière des Kennedy, ça se lit comme un formidable roman, hein, vraiment sous la plume de Valérie Patureau, accompagné d'étonnantes photos d'archives et de quelques-unes des recettes qui ont régalé les Kennedy. Notamment, il y avait les criques de pommes de terre qu'adorait John Kennedy. Et c'est à dévorer, bien sûr, aux éditions Les Escales.
Oh bah vous allez nous en préparer, tiens, des criques de pommes de terre pour la prochaine fois. Merci beaucoup, ça donne vraiment, en tout cas, envie de le lire. On marque une courte pause, il va être 13h. On vous attend au 32-10. On va commencer par parler du chômage et des seniors. Et puis vous rappeler l'actualité. 32-10, à tout de suite.
RTL Midi.